C'est en vieillissant qu'on aime les fleurs. Jeune, on ne pense qu'à les arracher. Le jour d'après, on dira que c'est beau, quand même un champ de coquelicots qu'a tiré la queue du bonheur. Le chien a fini par nous faire peur. Le jour d'après, on dira qu'on a eu chaud, mais que ça vaut pas un beau manteau. Une bonne bière sous la chaleur, un nouveau sac d'aspirateur. Pachamama, Pachamama, Pachamama nous a mis la fessée. Mais tu la veux, coûte que coûte ta 5G. Pachamama nous a mis la branlée. Mais tu la veux, coûte que coûte ta raclée. Pachamama, 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 Pachamama nous a mis la fessée. Mais tu la veux, coûte que coûte ta 5G. Pachamama, Pachamama, Pachamama nous a mis la branlée. Mais tu la veux, coûte que coûte ta raclée. Pachamama, Pachamama. On va pas mourir, pas dans ce coup. Pas non, pas tout de suite, on va servir. Y'aura nos sœurs abeilles d'abord. Les arbres, les feuilles, mais on s'en fout. On va pas mourir, pas d'un seul coup. Ben non, pas tout de suite, on va servir. Nos paysages en ligne de fuite seront la malle dans nos égouts. Mais c'est pas grave, mes braves, dans tous ensemble, nous on se gave. Vive les nausées, les hauts, les cœurs, les crises de froid, les gueules de bois. Mais c'est pas grave, mes braves, tant tous ensemble, nous on se gave. Vive les coliques accompagnés, les flatulences, des vomissements. Mais c'est pas grave, mes braves, tant tous ensemble, nous on se gave. Changer le monde, y'a pas moyen. J'préfère de loin me taper le voisin. Pachamama, 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 Pachamama nous a mis la fessée. Mais tu la veux, coûte que coûte ta 5G. Pachamama, Pachamama, Pachamama nous a mis la branlée. Mais tu la veux, coûte que coûte ta raclée. Pachamama, Pachamama.
On accueille François Annick, coordinateur de l'association Colère du Présent, qui va nous parler du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Le 1er mai, on lâche rien, et le 2 mai, on continue. Alors, ce n'est pas un salon virtuel, puisque ça sera vraiment, tout aura lieu sur Internet, mais c'est plutôt une expérience collective. Tu peux nous parler de cette expérience collective ?
Ouais, l'idée c'était de dire, bon, le Salon du Livre est annulé pour des raisons techniques liées aux contraintes sanitaires, mais le rendez-vous du 1er mai est maintenu et il est étendu puisque c'est 1er et 2 mai. Donc notre idée c'était non pas de faire une copie d'un Salon du Livre en numérique, une copie du salon physique parce que ce n'est pas possible, mais d'expérimenter tous, autant qu'on est, des choses, voilà, des textes, des images, des photos, des vidéos, du son, et donc de commander à tous les gens à qui on voulait commander justement une présence, un débat, une lecture, et bien de commander finalement une œuvre originale pour ce site internet, pour que l'on puisse proposer au public vraiment de vivre quelque chose et se plonger dans les mondes d'après.
Alors donc, le monde d'après, hein, c'est la thème principale. Évidemment, nous, sur PFM, eh bien, on a un petit peu changé la formule. Hein, ce sera plus que jamais le 1er mai. Mais on sera connecté donc pratiquement au même moment et dans la programmation donc pour vous passer également plein de sons, des tables rondes, des débats, des lectures, de la musique. Enfin, il y aura plein de choses, des interviews, des entretiens, etc., etc. Alors, est-ce que ça a été plus facile de gérer ça via cette nouvelle expérience collective ou si c'était plus compliqué de l'organiser en physique finalement ?
Ah, ça c'est une question piège. Alors avant, comme tu l'as dit, effectivement, on est partenaire avec PFM depuis même depuis le début. C'est vraiment un partenariat sur lequel on compte beaucoup. C'est plus de l'amitié d'ailleurs que du partenariat. Et on est très content de pouvoir ouvrir le salon, cet événement virtuel avec PFM, que ce soit PFM qui fasse l'ouverture. Pour nous, ça compte beaucoup. Et c'est justement des relais comme ceux-là, comme PFM, comme la boîte sans projet à Amiens, comme différents partenaires, comme la revue 813, que les gens de PFM et les gens qui connaissent les chroniques de Guy connaissent bien. Ce sont des relais comme ceux-là qui ont été vraiment très très importants pour imaginer cette histoire, parce que finalement on a monté en 3 semaines une programmation qui dure sur différents endroits. Donc il y a 3 lives, mais je pense qu'on rentrera dans les détails après, et l'ensemble constitue 55 heures de programmation en continu, autant dire une centaine de productions artistiques, beaucoup de débats, de rencontres, etc. Donc autant dire que c'était un challenge, une aventure assez incroyable, et tous les partenaires qui se sont engagés à nos côtés sur cette opération, nouveaux ou anciens, sont des partenaires sans qui tout ça n'aurait pas existé.
Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails de la programmation pour voir ce qui va s'y passer. J'imagine aussi que beaucoup d'auteurs qui devaient venir, peut-être d'autres qui n'étaient pas forcément attendus, ou des artistes, etc., ont joué le jeu dès le départ.
Ouais, l'idée c'était que, en fait, si vous voulez, un événement comme celui-là, c'est une convergence de beaucoup d'acteurs, bien sûr, beaucoup de prestataires, et on va rentrer un tout petit peu dans le moteur, mais beaucoup de réalités économiques aussi différentes. Et nous, ce qu'on a voulu, avec l'accord et l'appui des collectivités, notamment de l'État, de la région et du département, ce qu'on a voulu, c'était vraiment de pouvoir proposer au public un événement qui puisse permettre de réfléchir l'événement, de réfléchir cette notion de monde d'après, ce que ça veut dire pour tous, mais aussi de pouvoir soutenir les artistes, les intermittents, les auteurs, les illustrateurs, qui sont tous dans une situation très compliquée. Ce sont tous des travailleurs indépendants, et notre manière de les soutenir a été de passer ces commandes. Et donc, une commande qui est effectivement un soutien économique, mais aussi une manière de montrer à tous ces penseurs, artistes, intervenants, que leur contenu, leur cerveau finalement, est important pour nous tous. Et leur demander de réfléchir avec nous sur cette notion de monde d'après, qui n'est pas que l'après-Covid-19, mais qui est toute la notion de monde d'après, même les transclasses, etc. Enfin bref, on part dans tous les sens. De réfléchir ensemble, c'est aussi ce qu'ils peuvent nous apporter de plus. Et ils ont essayé de nous apporter le mieux, parce que c'est vraiment un soutien et un support incroyable, ce qu'ils nous ont tous fourni, qu'on va découvrir sur le site mondedapres.com.
Alors, plus de 70 autrices, auteurs et participants donc vont jouer le jeu. On va pas tous les citer, bien évidemment, mais est-ce que tu peux quand même commencer à nous donner les détails des temps forts, justement, qui se passeront? On va commencer d'abord par le 1er mai.
Oui, alors en fait, on a conçu la programmation comme 3 chapiteaux. Hein, on se refait pas. Je fonctionne avec des chapiteaux depuis maintenant quelques années. À Colère du Présent, on fonctionne avec des chapiteaux depuis 19 ans. Donc, on a réfléchi en chapiteaux. Voilà, on a une pensée en chapiteaux. Et donc, on a un chapiteau dédié au débat, 1er mai. On a un chapiteau dédié à la création littéraire, photographique, vidéo, également sur les 2 jours. Et on a vraiment voulu marquer le partenariat avec PFM par un chapiteau dédié à cette radio qui nous soutient et qu'on aime. Donc c'est le chapiteau PFM. Et donc sur ces 3 directs, on va pouvoir passer d'un sujet à un autre, passer d'une création signée Caryl Ferré et les Sœurs Chameau, que vous avez entendu en introduction, qui est un peu notre générique, à un débat par exemple sur le municipalisme avec PFM, ou un débat sur l'avenir du monde associatif avec nos autres partenaires, le collectif des associations citoyennes, à une création originale de Sylvain Moisy sur les réformes actuelles, à voilà, on passe vraiment au picor. On a l'univers photographique de Patrick Devresse qui va côtoyer une interview d'un auteur, Thomas Giraud, qui devait venir pour son livre Le bruit des tuiles, qui parle d'utopie, qui parle de familistère, voilà. Et on a des lectures en direct, Catherine Zambon, Pascal Dessin, qui nous font le plaisir de lire en direct et d'avoir la possibilité à certains moments, pas toute la journée parce que c'était trop lourd techniquement, mais à certains moments, d'interagir avec les auteurs ou avec ceux qui nous apportent ces pensées, ces débats, ces réflexions sur la violence d'État ou sur le confinement dans les villes. Et donc, à d'avoir des regards comme ça qu'on va pouvoir partager à certains moments quand on est internaute et avec les invités.
Alors on peut prendre aussi quelques exemples. Moi j'ai relevé aussi que cet événement va passer nos frontières puisque il y a une création en live, Confinement, un regard libanais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et comment ça va se passer ?
Alors, un salon de livres, c'est 2 ans de travail, hein, en général. Nous, cette année, on voulait travailler sur les utopies urbaines. Et on voulait travailler sur l'exemple du Liban et de Beyrouth. Exemple à la fois sur la création, exemple également sur les mouvements sociaux qui secouent le pays actuellement. Et donc, on avait un travail qu'on voulait mener autour du Liban. Et donc, on a voulu proposer aux auteurs libanais qui devait venir, une création. Donc on a comme par exemple Barak Rima, qui est un auteur de bande dessinée, publié aux éditions Alif Bata, qui nous a proposé des pages, des planches qui vont être diffusées en direct. Donc on va pouvoir lire aussi sur écran. On a Iman Oumaïdan, qui est autrice, romancière, qui a une écriture magnifique et qui travaille toujours sur le monde d'après, mais le monde d'après, la guerre civile du Liban. Et elle essaie toujours d'essayer de retrouver les fantômes qui peuplent un peu les rues du Liban et qui continuent à peupler les imaginaires. Et donc cette question du monde d'après va bien au-delà de cette histoire de confinement, va vraiment en écho avec toutes ces problématiques. Et le Liban était donc un point focal dans notre programmation physique et donc se retrouve également là dans les propositions en ligne. Le texte d'Iman Oumaïdan sera lu puisqu'il y a des lectures qui ont été menées par de nombreux comédiens et comédiennes. Et là, du coup, on va pouvoir entendre une voix qui n'est pas celle d'Iman, mais ce sont ses mots.
Alors, on parle aussi hein, et on retrouve les Gilets jaunes, hein, donc avec un débat aussi. Alors, un an après, qu'en est-il du mouvement, hein, puisque ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'on pourra éventuellement y trouver sur ce débat ?
Là, du coup, ça fait une belle transition entre 1er et 2 mai. En fait, on a voulu imaginer un peu la programmation du 1er comme étant un constat de situation et le 2 mai sur comment se mettre en dynamique. C'est comme ça qu'on l'avait imaginé déjà dans la partie physique du salon. Dans sa partie virtuelle, dans cette partie virtuelle qu'est le festival mondedaprès.com, on a voulu faire la même chose. On a fait un acte 1 le 1er mai à 11h avec Juan Branco, qui est l'une des personnes importantes aussi actuellement sur les pensées autrement, et puis une personne un peu sulfureuse, mais dont les mots, dont les textes sont importants, et Maxime Nicole, qui était une figure des Gilets jaunes. Donc eux vont le 1er mai à 11h nous faire un peu un retour sur tout ce qui s'est passé autour de cette question des Gilets jaunes depuis un an, où on en est aujourd'hui. Donc c'est vraiment une sorte de bilan qui part de leur livre, hein, Juan Branco et Maxime Nicole ont tous les deux écrit sur le sujet. Et le 2 mai, à 11h également, on fait l'acte 2 des Gilets jaunes avec des militants de Arras et d'Amiens qui ont été dans la rue, qui aujourd'hui sont très fraternels puisqu'ils sont très impliqués dans l'aide aux personnes qui sont dans la rue, qui font vraiment œuvre de solidarité. Et avec Pascal Fautrier, qui est une journaliste qui a suivi tout le mouvement, qui a décortiqué tout le mouvement, qui a vécu à Commercy, donc qui a vu toutes les assemblées des assemblées, et qui, avec ces militants, vont réfléchir, et puis avec Slim Tabé qui va animer le débat, vont réfléchir sur l'avenir de cette démocratie. Comment on peut imaginer la démocratie autrement ? Donc ça fait des échos comme ça avec d'autres mouvements, comme on va interroger la question du municipalisme avec PFM, aussi avec d'autres invités comme par exemple des invités espagnols qui ont monté des actions citoyennes engagées qui permettent d'étendre les possibilités d'implication des citoyens dans la démocratie locale. Tout ça va dans ce même sens, de réfléchir à autrement à comment vivre la politique au quotidien.
Je vois aussi dans la programmation, un petit peu plus tard dans la journée, dans la programmation du 1er mai, une conférence gesticulée, le salaire à vie. Donc j'imagine que ces vidéos, parce que c'est pas, ça ne va pas être évident, une conférence gesticulée, c'est un peu impromptu.
Oui, alors la conférence gesticulée, c'est une forme qu'a inventée Franck Lepage, qui a construit une fabrique qui s'appelait Le Pavé. Enfin bon, Le Pavé est fini, mais l'idée de la conférence gesticulée, c'est de ne pas être dans le spectacle, de ne pas être dans le one-man show, mais dans une forme qui raconte un peu un morceau de sa vie ou une problématique qu'on a traversée et le transformer en allant sur scène. Bon, ça, c'est un peu la forme, on va dire, telle qu'elle est, par exemple, présentée aussi le 2 mai, le matin, à 9h. On a aussi une forme gesticulée comme ça qui est produite. La boîte Sans Projet en produit beaucoup, en réalise beaucoup. Et là, on a une conférence gesticulée qu'on avait enregistrée à Amiens, encore une fois, en décembre. On avait fait venir Bernard Friot pour nous parler du salaire à vie et de sa volonté de dire qu'on peut travailler jusqu'à la fin de sa vie, que le salaire devrait être garanti du début à la fin de sa vie. Et c'est son grand travail théorique en tant qu'économiste, en tant que sociologue, en tant que penseur, que de porter cette idée de salaire à vie qui libère la notion de travail. Puisque qui dit salaire et travail dit lien de subordination à son employeur. Ça, c'est ce qui est déterminé dans le contrat de travail. Et lui, toute sa pensée, toute sa réflexion, c'est de dire libérons le rapport au travail en permettant à chacun de vivre décemment d'un salaire à vie. Et donc, ça remet ce sujet qui a été plus ou moins abordé au présidentiel, et souvent plutôt moins que plus d'ailleurs, mais du coup, de lui donner vraiment une ampleur. Et cette conférence gesticulée a été enregistrée de bout en bout et donc est proposée dans le cadre de cette programmation.
Avant de passer à quelques grands temps forts du 2 mai, on voit aussi que les enfants ne seront pas oubliés puisqu'il y a un coin jeunesse également.
Ouais, sur les deux jours, on a voulu faire des coins jeunesse parce que d'abord, on a un éditeur jeunesse de qualité qui s'appelle les éditions Les Éléphants. C'est vraiment une très très belle petite maison en plein développement avec des auteurs et des autrices qui nous ont envoyé des programmations, des projets et des produits vraiment intéressants. Je pense à Chiara Armellini, je pense à May Angeli. Donc il y aura du conte, il y aura de l'illustration, il y aura du jeu. Et donc on a du coup deux coins jeunesse aux alentours de 4h le 1er mai et puis de 5h le 2 pour que justement cette programmation autant que possible touche le plus grand monde. Comme on le fait physiquement sur les grandes places, on avait envie vraiment de pouvoir aussi trouver un endroit pour les enfants, pour qu'ils aient aussi un espace pour eux.
Alors donc, le 2 mai, il y aura aussi plein de choses, notamment une rencontre avec Gérard Bras, comment faire peuple en période de confinement. Alors ça, c'est vraiment d'actualité, donc tu peux nous faire un petit peu le pitch, nous mettre l'eau à la bouche.
Gérard Bras, c'est intéressant, c'est un philosophe qui est déjà venu, hein, on l'a déjà invité, et c'est pour ça que j'ai pensé à lui, c'est qu'il est venu pour son grand travail sur la question du peuple, ça s'appelait Les Voix du Peuple aux éditions Amsterdam, et toute la question d'aujourd'hui, c'est on est tous isolés, on est tous derrière nos chaînes-fi à écouter PFM ou derrière nos ordinateurs, puisqu'on peut l'écouter en ligne, mais par contre on est isolés. Et donc la question, c'est comment faire collectif, comment reconstituer cette notion de peuple, soit dans ce confinement, soit en sortant du confinement. Et donc du coup, cette réflexion m'a fait penser tout de suite au travail de Gérard, qui a vraiment conceptualisé de manière très fine cette notion de peuple. Et donc j'avais envie de lui poser la question, comment faire peuple en période de confinement, parce que comment faire collectif finalement, comment créer le lien quand on est chacun chez soi. Et puis, comment faire peuple en période de confinement? C'est aussi en période de déconfinement. Si on doit rester à un mètre de distance les uns des autres, si les actes de solidarité et de fraternité, les embrassades, les serrages de main, les manifestations, enfin, toutes ces questions finalement qui font du collectif, mais on peut parler aussi des festivals, on peut parler des salons du livre, enfin voilà. Tout ce qui fait collectif, tout ce qui fait corps commun, corps social, comment c'est possible dans les situations que l'on traverse? Voilà, comment faire peuple. Et Gérard Bras, j'ai voulu le faire intervenir une seconde fois parce que la question du monde d'après, c'est de manière plus générale, hein, c'est aussi la question des transitions. Et donc, on a deux tables rondes sur la question de la transition La première étant sur le journal de la Transboy, donc la question du transgenre, voilà, du transgenrisme. Quand on passe d'un corps de femme à un corps d'homme, comment le monde d'après existe, comment il se vit. Et de la même façon, et là c'était pas Gérard Bras, hein, c'est Adèle Tincelin, mais Gérard Bras, je l'ai interrogé aussi sur la question transclasse. Les transfuges de classe, les passages d'une classe sociale à une autre. Il a beaucoup travaillé sur le sujet et donc la question de la transition me semblait intéressante à partir du moment où on aborde la question du monde d'après.
Avant de terminer, il y a encore deux événements dont j'aimerais bien parler. La table ronde donc par StoryW, où là je vois quand même un débat avec des gens improbables, ou presque. Bon, mis à part le chef de service diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, mais il y a aussi Célig, l'humoriste, et le saltimbanque Didier Super. Ça risque d'être assez humoristique.
Alors, ce n'est pas un débat parce qu'ils ne vont pas échanger. Ah. C'est une table ronde, c'est-à-dire qu'on va avoir des capsules où chacun va aborder le propos le jour d'après. Et c'est vrai qu'on a un jour d'après très sérieux, très impliqué, très fort de la part d'Agnès Hartmann, qui est donc chef de service diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui est vraiment très très intéressant. Du coup, des jours d'après un peu plus décalés, Célig, qui d'habitude est vraiment très drôle, et là qui nous parle un peu du monde du spectacle et de la culture et de la création, qui s'en prend vraiment plein la figure. Et bon, forcément Didier Super, là on est à côté, on est ailleurs, et pourtant on est dedans. Le jour d'après, vu par Didier Super, ça vaut son pesant de cacahuètes.
Ah oui, j'imagine bien. Puis ça se termine également pour presque une épanadiplose, le jour d'après, un jeu pour construire le monde d'après. Alors ça consiste en quoi exactement ce jeu ?
Jean-Paul Angélibert a écrit un livre vraiment formidable de thèse, une thèse vraiment sur la question des sociétés post-apocalyptiques que l'on trouve dans les romans, dans les films, etc. Et donc il devait venir pour cette question justement de ces mondes d'après qu'on voulait aborder sans savoir qu'on allait créer ce site internet. Du coup, quand on lui a proposé, moi je lui avais proposé plutôt un débat, je pensais plutôt une discussion avec lui sur cette question-là, et il nous a dit non, j'ai quelque chose en tête. Et donc il nous a proposé une vidéo où on peut jouer enfant, adulte, n'importe, quel que soit l'âge, quelles que soient ses conditions, on peut imaginer ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé avant, et comment on peut l'appliquer après, et comment on peut reconstruire un monde autrement à partir du moment où on va réfléchir sur ce qui était notre monde d'avant. Et je pense que c'est salutaire en ces périodes de déconfinement programmé plus ou moins, en ces périodes aussi de moments où l'on est soit seul chez soi à réfléchir aussi sur ce qui nous arrive. C'est à la fois ludique, c'est drôle et en même temps c'est très porteur de sens, et on voulait vraiment finir là-dessus comme étant un petit clin d'œil avant de conclure.
Alors, pour clore cet entretien, donc on va bien rappeler évidemment que vous pourrez donc voir tout ça sur trois chapiteaux différents sur le site internet, www.monde-d'après.com. J'imagine aussi que pour les... on ne va pas dire auditrice-auditeur, mais en même temps spectatrice-spectateur, il y aura un peu de tout. Est-ce que les heures, les timings de diffusion vont être notés, seront disponibles avant pour faire son choix, son petit marché ?
Ouais, tout sera en ligne. On essaie vraiment de communiquer. Là, on a vraiment travaillé différemment. Du coup, on travaille avec Twitter, avec Facebook, avec Instagram, avec Twitch, avec plein d'autres trucs que je sais même pas ce que c'est. Mais en tout cas, on travaille un peu partout pour essayer de communiquer le plus largement possible les horaires de passage de chaque élément de programmation. 55 heures de programmation, quand on a des formats, des fois, de 3 minutes 2 ou de 4 minutes 53. Ça a été un gros travail de puzzle. Et donc... effectivement, là, on est vraiment très proche de la date. Normalement, tout est en ligne et sur le site en particulier. Vous avez le déroulé minute par minute quasiment pour se retrouver dans toute cette programmation foisonnante, gourmande, certains disent. Et puis pour profiter vraiment au maximum de toute la production, programmation qu'on a essayé d'imaginer pour les internautes.
Et puis chose inédite, hein, puisque c'était pas, il y avait pas la liaison, on va dire, directe entre le 1er et le 2 mai qui était prévu, mais par contre sur internet et sur la toile évidemment, ce sera du non-stop en fait entre le 1er et le 2 mai.
Exactement, en fait cette année on devait donc faire ce salon du livre sur deux jours, 1er et 2 mai, et finir par un DJ set qui devait s'arrêter vers 23h30 pour pas trop déranger le voisinage. Et là, on a l'avantage de pouvoir faire durer le plaisir. Et donc, ce DJ set avec le même artiste, Mad Selecta, qui a été co-programmé avec le son du porte-voix qu'on connaît bien ici, ce DJ set aura lieu de 20h30 à minuit et demi, donc c'est-à-dire 4 heures de live, va peut-être prolonger un petit peu en fonction du nombre de personnes qui vont se trémousser sur la musique et vont écouter son travail. Et puis ensuite, on va reprogrammer quelques morceaux, quelques concerts, quelques clips. Au fur et à mesure de la matinée, la prime matinée, à partir de 5 heures du matin, on va retransmettre quelques débats aussi, quelques contenus, des pépites, qui ne seront pas dans les choses de la journée, mais qu'on dédie vraiment à ce moment assez particulier entre Chien et Loup, entre 1er mai et le 2 mai, pour vraiment donner une autre manière de vivre le festival.
Eh ben, merci François. Alors on te souhaite un bon lâcher de rien pour le 1er mai et puis une bonne continuation pour le 2 mai. Le monde d'après, donc, on rappelle que ce n'est pas un salon virtuel, mais une expérience collective. Et à mon avis, ce sera une expérience quand même. S'il y en a qui arrivent à faire le marathon du 1er jusqu'à la fin du 2 mai, faudra qu'on les contacte hein, parce qu'ils seront forts. Hein.
C'est en vieillissant qu'on aime les fleurs. Jeune, on ne pense qu'à les arracher.